Bonjour Gaëlle Mac.
Bonjour.
Bienvenue, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, à la une du numéro de cette semaine. Les grands escrocs, comment ils ont exploité le capitalisme. Alors, on voit Monsieur Bankman, c'était FTX dans les cryptos, Bernard Madoff, Ponzi, l'ineffable Ponzi, Stavisky. Gaël Sliman, bonjour.
Bonjour.
Président d'Odoxa, donc pour le sondage avec AJP. Philippe Trénard, bonjour Philippe.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes partenaires de cette émission chaque jeudi. Un petit mot sur les rencontres d'Aix-en-Provence qui ne cessent d'approcher.
Oui, qui ne cessent d'approcher avec
Ce sera les 5 et 6 juillet prochains.
Les 5 et 6 juillet prochains, je crois que c'est un événement important pour les économistes français et on voit plusieurs thèmes qui émergent. Alors le premier thème d'une enquête que nous avons faite auprès des jeunes, qui montre beaucoup d'attentes des jeunes, mais aussi beaucoup d'inquiétudes des jeunes. Et je pense que pour l'avenir de la France, c'est important. Et un deuxième thème que nous souhaiterons développer, c'est que dans les grandes turbulences de la géostratégie mondiale, il ne faut pas oublier la coopération avec le Sud et avec l'Afrique. C'est un point très important et que nous développerons aussi aux journées d'Aix.
C'est intéressant de suivre l'évolution globale de la perception des choses par la jeunesse.
Absolument.
Il y a eu un baromètre BPCE qui a été publié. 1 sur 3 épargne entre 18 et 24 ans. 1 sur 3 épargne pour ses vieux jours. Je sais pas, vous avez épargné pour vos vieux jours à 22 balais, Gaël ?
Moi non, mais à longueur,
même pas à la retraite.
À longueur de sondage éco ou de baromètre, on a un baromètre sur la retraite avec Groupama où on voit qu'on a des jeunes qui se préoccupent de la retraite. Imaginez, il y a 30 ans, la jeunesse n'en avait rien à faire. Elle n'imaginait pas un instant son problème de retraite.
D'ailleurs, hier, dans les manifestations, le thème de la réforme des retraites n'est pas apparu.
Oh, elle est un peu consommée, là, la manifestation.
Elle est consommée, non, mais si c'était une revendication majeure, les gens ont compris que pour l'avenir des retraites, il fallait parfois un peu réformer.
Un sur trois, quand même, entre 18 et 24 ans. C'était des sujets, alors moi, je suis évidemment pas concerné par les 18-24
ans. Alors, il y a
après,
aussi...
Après, à partir de 25 ans, c'est le niveau normal, c'est environ un sur deux qui met de l'argent de côté.
Il y a aussi le climat. C'est vrai que les jeunes sont, en revanche, un peu moins sensibles aux questions géopolitiques, parce qu'au fond, ils ne les ont pas connus. Ce sont des sujets qui ne les ont pas affectés directement.
En ce moment, une partie de la jeunesse s'intéresse beaucoup à certains sujets, sur Gaza notamment.
Sur Gaza,
c'est Gaza. Honnêtement, la géopolitique, c'est Taïwan, c'est l'Ukraine, c'est l'Iran.
Il y a un cas, il y a une posture un peu idéologique sur l'histoire de Gaza, mais effectivement, Taïwan, c'est un énorme sujet dont on ne parle pas pour l'instant, et j'espère qu'on n'en parlera pas d'ailleurs. L'attractivité. La France confirme sa première place en Europe pour la 5e année consécutive. Alors, je précise, le baromètre EY porte sur le nombre de projets d'investissement direct étranger. 1194, presque 1200. Mais on est leader sur le nombre de projets, même s'il recule, c'est vrai, un peu par rapport à 2022. Seulement, on n'est pas du tout leader sur les nouveaux projets. L'essentiel, 2 projets sur 3, ce sont des extensions d'activités qui existent déjà. Et on n'est pas non plus du tout leader sur les créations d'emplois liées à ces investissements directs étrangers. Puisque là, clairement, on est dépassé par notamment nos principaux voisins, la Grande-Bretagne. Voilà, 35 emplois en moyenne par projet en France, 49 en Allemagne, 61 en Grande-Bretagne, 300 emplois en Espagne. Gaël, une réaction par rapport à cette bonne nouvelle ? Si Jean-Marc Daniel était là, il nous dirait que c'est la pire des nouvelles. Voilà. Parce qu'on se fait acheter par l'étranger, et donc on va payer les retraites de l'étranger par la suite avec les dividendes qu'ils vont générer sur notre sol. Moi, j'ai pas la même lecture. Comment on peut d'ailleurs rapprocher ça, Gaël, et après j'arrête parce qu'il y a que moi qui cause. Mais la bonne nouvelle sur le PIB, la bonne nouvelle sur l'inflation, la bonne nouvelle sur Fitch, Moody's, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une petite hirondelle là.
Oui, en tout cas, c'est clair que le gouvernement a bien l'intention de capitaliser sur le sujet. Ça fait 5 ans quand même d'affilée que la France est en tête de ce classement. Faut se souvenir quand même, le classement en nombre de projets est limité, que vous l'avez bien dit, à ce sujet sur le nombre d'emplois, les projets nouveaux, c'est pas toujours si structurant que ça. Mais enfin, c'est quand même un indicateur. Il faut se souvenir que il y a encore 10 ans, la France était le pays qui était conspué pour les 35 heures, les grèves, la fiscalité étouffante, etc.
L'instabilité fiscale.
Voilà. Et là, ce qui est quand même intéressant de regarder, c'est que les 3/4 des dirigeants étrangers qui sont interrogés disent qu'ils pensent que la compétitivité de la France, l'attractivité de la France va continuer de s'améliorer. Bon.
J'ai vu, ouais. Pour les années qui viennent.
Voilà, il y a près de la moitié des projets qui sont industriels, ce qui quand même correspond aussi au souhait de réindustrialisation du pays. Et il y a 17 projets dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc là, le côté vert à moitié plein, c'est celui-là. Je laisse à Philippe Trénard le vert à moitié vide.
Je vais faire réagir Gaël. Mais effectivement, oui, puis parmi les éléments, les atouts nouveaux qui sont mis en avant, il y a l'énergie décarbonée. Et ça, c'est quelque chose qui compte maintenant énormément. Parmi les faiblesses nouvelles qui sont mises en avant, alors pas dans le baromètre EY, mais tout récemment dans une autre enquête, l'insécurité, la sûreté des personnes.
Et il faut aussi noter quand même le contexte plus global. L'Europe décroche quand même par rapport aux États-Unis. Ça, on le voit très clairement, et notamment à cause du redoutable IRA, là, les subventions de 370 milliards de dollars.
Au prix d'un déficit de dingue.
Qui arrosent les projets d'industrie verte et sur le sol américain. Donc ça, quand même, ça a un effet.
On va en reparler, mais dans ce creusement entre l'Europe et les États-Unis, je suis désolé, mais l'histoire de Total qui préfère Wall Street à la Bourse de Paris, ça a du sens. Gaël, vous vouliez réagir à ce qu'on disait à propos, je sais pas, peut-être des bonnes nouvelles ou pas simplement de l'attractivité.
Deux choses. À propos des bonnes nouvelles, et moi, de mon poste de vigie sur l'opinion publique...
Bonne nouvelle, 0,2 de croissance, c'est pas non plus le Pérou, mais c'est une bonne nouvelle.
Au-delà de ça, sur l'opinion publique en France, et les conséquences de ces bonnes nouvelles, il faut savoir que les Français étaient très inquiets d'une dégradation de la note, alors... Tout n'est pas encore terminé.
Ils étaient vraiment très inquiets.
Oui, ils étaient très inquiets. On avait fait un sondage pour le Figaro il y a de ça une dizaine de jours où ils disaient que ça aurait des conséquences. Pensaient-il ? Alors, ce n'est pas ce qu'on avait observé il y a 12 ans quand c'était arrivé, mais eux étaient persuadés que ça aurait des conséquences pour le pays et des conséquences pour eux-mêmes qui seraient très fâcheuses. Toutes ces bonnes nouvelles, si elles arrivent à capillariser, à imprimer dans l'opinion publique, peuvent réactiver un mantra qui s'est perdu pour Emmanuel Macron, celui du Mozart de l'économie. C'est quand même ni plus ni moins sur cette idée que, pour piloter l'économie, ils étaient collectivement, l'équipe actuelle, plus compétents que le Rassemblement national. C'est sur cette idée-là qu'il a remporté la présidentielle de 2022 et celle de 2017. Et aujourd'hui, les Français, dans nos enquêtes, pensent que le Rassemblement national serait plutôt moins mauvais qu'eux en matière économique. Donc, arriver à retourner la tendance, c'est peut-être une clé pour éviter de se retrouver dans quelques années avec Marine Le Pen, présidente de la République, parce que sinon, c'est vraiment ce qui nous pend au nez aujourd'hui.
Alors, moi, on a toujours dit qu'une dégradation des notes n'aurait probablement pas d'effet dans les mois.
Non, ça n'en a pas eu il y a 12 ans.
Suis moins optimiste que l'opinion que vous citez sur la capacité de l'actuel exécutif et d'Emmanuel Macron à redonner une sorte de lumière économique. Globalement, il faut faire 20 milliards d'euros d'économie.
Ah non, mais l'opinion.
2027, je ne vois pas comment
Nicolas,
tu peux...
L'opinion publique n'est pas rassurée là-dessus. Je vous dis que justement, quand on les interroge sur qui est le meilleur en matière économique pour piloter le pays, aujourd'hui ils nous disent tout le monde est mauvais. Le RN, le PS, et ils pensent que le Rassemblement national serait moins mauvais
que
l'équipe actuelle en matière de fiscalité, en matière économique, sur tous les sujets sur lesquels ils avaient une avance. Donc ça a un enjeu important que les Français puissent entendre ces bonnes nouvelles. Notre morale économique s'améliore de 3 points. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas, ce n'est pas inintéressant non plus.
Philippe Trénard sur l'attractivité, 1194 projets. On ne parle pas de montants, de milliards. On parle de nombre de projets, projets neufs ou projets déjà existants, et des créations d'emplois qui vont avec. Moi, j'ai envie de dire bonne nouvelle.
Oui, non, il faut pas, et je crois que Gaël a très clairement dit, ce sont des bonnes nouvelles. Maintenant, il faut aussi, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Gaël, que je partage totalement, mais il faut néanmoins poser quelques limites. Alors là, il faut revenir à quelques chiffres, désolé, en milliards. Le vrai sujet de l'investissement investissements étrangers en France, c'est qu'on peut pas les compter seuls. Il y a les investissements étrangers en France et les investissements français à l'étranger. Notre vrai problème historiquement a été que nous avons eu une balance des investissements redoutablement déficitaire entre 25 et 50 milliards.
Là, vous parlez de la balance des paiements courants.
Des investissements.
Des investissements.
C'est-à-dire qu'on investissait nous beaucoup plus à l'étranger. C'est-à-dire le Français ne voulait pas investir en France. Il voyait pas venir à la France.
Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais de cela. Hein.
Étrangers investissaient en France tout simplement parce qu'ils n'étaient pas soumis à l'ISF, ils n'étaient pas, etc. Ce déficit n'a pas disparu. Ça, c'est la pas bonne nouvelle. Mais il a fortement diminué, puisqu'on est parti d'une moyenne entre 25 et 50 milliards. On est aujourd'hui plutôt à 11 milliards. Et ça n'a pas tendance à augmenter. Ça, c'est, au fond, la réussite de Macron, n'est-ce pas? La disparition de l'ISF a fait quelque chose, quand
Philippe,
même.
Le CICE, c'est 2014. Hein. Ça commence là, à la politique de l'offre. Et c'est poursuivi
par
Emmanuel
2014,
Macron.
C'est pas là que commence l'amélioration des investissements directs. C'est vraiment la date.
Oui.
C'est vraiment la disparition de l'ISF. On voit qu'il y a...
Réforme fiscale 2017, voilà. C'est un peu la bascule.
Voilà, bon, c'est la bascule. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. Je pense aussi les lois El Khomri et les lois sur le marché
du travail. El Khomri sous François Hollande, voilà, Pénicaud sous Emmanuel Macron.
Parce qu'on... Bon, croyez peut-être moins d'emplois. La France n'est pas le pays le plus attractif pour l'emploi, mais néanmoins, par rapport au passé, c'est beaucoup plus. Donc, ce sont ça les bonnes nouvelles, je crois, qu'il faut engranger. Et alors, ce que dit votre Ernst & Young, c'est quand même attention à l'instabilité fiscale. C'est vrai que je trouve que
ça
tous les députés...
Ça s'est beaucoup amélioré, quand même.
Oui, à part que vous avez à peu près tous les jours... Quand vous écoutez la radio, vous ouvrez votre journal, un député de la majorité qui dit qu'il faut restaurer la taxe sur le capital,
qui a toujours une bonne idée fiscale,
qui sera catastrophique de ce point de vue-là.
Mais bon, il y a une remarquable stabilité fiscale sur une niche qui est très importante pour les investissements étrangers, c'est le crédit impôt recherche.
Oui, absolument.
Qui est une niche massive quand même, et qui est là, qui a toujours été défendue continuellement depuis plus d'une décennie maintenant. Et effectivement, ça se traduit quand on voit les investissements étrangers. On voit quand même que c'est notamment dans le domaine de la R&D, ça a créé quand même une sorte de...
On prend un pari, Gaël.
D'émulation autour de la recherche et développement.
Le CIR ne sort pas indemne de la loi 2025.
Le nombre
de députés, on a le même problème au fond, au lieu des députés.
C'est
ce qui nous a permis d'obtenir, d'engranger des investissements dans des secteurs de pointe. Ils sont en train de dire quand est-ce qu'on le supprime.
Non, pas supprimer, mais...
Non, les députés. Il y a quand même un peu là une absence de responsabilité.
J'ai quand même jamais entendu personne dire on le supprime, mais même Philippe Aguillon, qui n'est pas un odieux gauchiste, considère qu'il y a des effets d'aubaine énormes.
Philippe Aguillon est favorable.
Il est favorable à quoi l'État.
Il voit qu'empiriquement, ça a joué un rôle hyper important.
Mais Philippe vous explique que quand même, c'est vrai, il y a des effets d'aubaine assez importants et qu'il y a quand même des aménagements.
Et même la Cour des comptes est revenue plusieurs fois là-dessus.
Savez-vous dessiner d'ailleurs...
Attendez, pas ensemble parce que...
Pardon.
Allez-y.
Non, mais il y aurait matière à aménager. La Cour des comptes a été revenue plusieurs fois pour montrer quand même qu'il y avait des effets d'aubaine assez importants.
Il faut faire attention aussi dans l'achat des effets d'aubaine. Il n'existe pas de mesure. Dès que l'État veut intervenir, vous avez... des effets d'aubaine.
Je suis d'accord.
Pour avoir travaillé 20 ans dans ma vie sur ces sujets, je n'ai jamais réussi à avoir une seule mesure qui n'ait pas d'effet d'aubaine.
Oui, mais quand tu as 1 euro sur 10 d'effet d'aubaine ou 6 euros sur 10 d'effet d'aubaine,
Non, absolument.
Il y a une question. Parce que là, on n'a jamais cherché.
Il faut les minimiser.
On n'a jamais cherché des milliards, on n'a jamais été autant mort de faim. Je pense que le CIR, il risque de morfler un peu dans le PLF.
Ça a été une très bonne mesure et une façon intelligente de baisser l'impôt sur les sociétés.
Bien sûr. Et puis, autre pari que je prends, je pense que les milliards de l'apprentissage aussi, on va...
Voilà.
Il va y avoir des trucs. Avant de parler du baromètre Odoxa, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous êtes peiné que Total Energy veuille quitter la Bourse de Paris pour préférer Wall Street? On comprend très bien. Je vous redonne les chiffres. Hein. En 10 ans, le poids des US, enfin des actionnaires américains, passe de 30 à 40%. Le poids des Européens passe de 51 à 44%. Et puis en plus, on vient de durcir le label ISR, ce qui fait que Total Energy n'est plus éligible au label ISR. Bon. Il n'est pas aimé ici, il est aimé là-bas. Et puis en plus, le Total bashing est un sport national, il va là où il est aimé. Mais Bruno Le Maire dit ce matin sur BFM TV, je souhaite que ça n'ait pas lieu. Philippe, vous êtes...
Écoutez, je crois que, comme vous l'avez dit, Nicolas, il faut à ce moment-là un peu aménager les conditions.
On parle d'attractivité, et voilà que Total est en train de faire un signal fort.
Et deuxièmement, Total part parce qu'on voit tout d'un coup l'Europe se mettre à multiplier les réglementations sur les entreprises, particulièrement une entreprise comme Total. Il y a peut-être un moment donné, et il faudrait plutôt se poser la question, comment on assure à Total les conditions d'une transition réussie? Alors, si on l'assure en disant, vous pouvez plus, si vous êtes un fonds ISR, vous pouvez plus investir dans Total, si, vous pouvez pas investir et on va vous pénaliser, il est certain que la transition de Total ne se produira pas, ou pour se produire, il faudra qu'ils aillent aux États-Unis. Il y a d'autres réglementations, mais qui touchent un peu moins, pour moi, Total, sur les données personnelles, etc., qui aboutissent exactement au même résultat. Si vous voulez faire de l'innovation dans les données personnelles, y compris la sécurité des données personnelles, mon conseil, aller aux États-Unis, surtout ne restez serait pas en Europe. C'est horrible à dire.
Il y a un parfum harakiri dans tout ce qu'on raconte régulièrement. Gaël, par rapport à Total, enfin Gaël, et Gaël, si vous avez des choses à ajouter. Mais...
Oui, alors bon, pour ce qui est de Total Énergie, oui, il y a effectivement une logique pour les pétroliers européens, parce qu'il n'y a pas que Total Énergie qui y songe, Shell aussi y songe, à aller aux États-Unis. On voit qu'une entreprise américaine pétrolière comme Chevron, par exemple, qui fait plus ou moins les mêmes bénéfices que Total et valoriser 1,7 fois ce qu'est valorisé Total Énergie.
14 fois les bénéfices contre 8 fois pour
voilà.
Total.
Voilà. Donc clairement, il y a aussi des questions techniques. Par exemple, quand on est coté à Wall Street, on peut rentrer dans les indices sectoriels américains qui sont puissants. Voilà. Bon. Après, pour ce qui est de la question de l'innovation, je trouve Total Énergie, effectivement, est finalement le pétrolier qui investit le plus dans les énergies renouvelables.
5 milliards par an.
Voilà, 30% de ses investissements. C'est reconnu partout, mais sauf en France. Voilà, c'est pas faux. En même temps, aux États-Unis, à l'inverse, il se développe quand même une sorte d'idéologie pro-pétrole, anti-énergie renouvelable, qui prospère en ce moment et qui effectivement participe à la valorisation des compagnies pétrolières, mais qui est en même temps à courte vue, parce que même au-delà de la question de la transition énergétique, je veux dire, les compagnies pétrolières doivent réfléchir à leur avenir, et du pétrole, il n'y en aura pas pour les 200 ans à venir. Donc, je pense que il y a quand même, c'est pas inutile d'avoir une sorte de réglementation qui pousse à l'innovation hors du pétrole. Voilà.
Gaël, Slimane, sur
chacun dans son rôle. Pour toutes les raisons que vous avez évoquées, plus vous évoquez régulièrement, c'est important de le dire, le total bashing. Qui a lieu d'ailleurs davantage dans les médias que dans l'opinion, puisque Total n'est pas nécessairement une entreprise hyper populaire, mais quand on teste l'image de l'entreprise, alors à chaque fois qu'il y a une polémique, une catastrophe, un procès, un Erika, quelque chose comme ça, on voit l'image de Total qui s'effondre aux yeux du grand public français, mais on avait dans notre baromètre économique ensemble avec Challenge et BFM testé l'image des grandes entreprises françaises récemment, et on est au-dessus de la moyenne, on est sur plus de 50% de bonnes opinions à l'égard de Total auprès des Français, malgré
Les ristournes sur le carburant pendant...
Alors, ça, qui ont joué, bien sûr. Et puis on s'éloigne des polémiques. Donc, du point de vue de Total, vouloir un peu sortir du bashing, profiter de ces opportunités business, ne pas risquer un jour que les politiques se servent du Total bashing ambiant pour prendre des mesures, des taxes sur les super-profits dont Total serait victime, on comprend très bien. Mais, pour le coup, le ministre de l'Économie est tout à fait dans son rôle, parce que malgré la pression d'une certaine partie de l'opinion publique jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mesures de ce type qui ont été prises par ce gouvernement et qui auraient affecté Total. Il y a une légitime envie, je pense, du ministre de l'Économie de conserver français, entre guillemets,
une des stars.
Donc c'est logique et ce serait quand même étonnant que Total finisse par le faire.
Il y a un enjeu pour l'attractivité financière de la place de Paris, quand même, parce que c'est un poids lourd du CAC 40.
9% du CAC, 167 milliards de valo.
Et on entend quand même aussi dans le propos de Patrick Pouyanné une sorte de « retenez-moi ou je fais un malheur ». Au moment où la discussion notamment sur la taxation des rachats d'actions, dont Total est un grand utilisateur.
Numéro 1 en France.
Voilà.
Et 9 milliards sur les 33 milliards de rachats d'actions en 2023.
Exactement.
C'est Total tout
seul.
Parce que les investisseurs étrangers...
Donc Total Énergie est en première ligne si une taxation sur les rachats d'actions a lieu, ce qui est un peu le Dans la grande inventivité dont on fait preuve sur les taxes, c'est un peu la taxe du moment là, à laquelle on réfléchit en ce moment. Et donc, je pense que ce n'est pas innocent si le propos de Patrick Pouyanné intervient maintenant.
Ouais, clairement. Alors, ce que disait Gaël est très 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 vrai, et je l'ai constaté lors des derniers résultats extraordinaires, c'était 20 milliards d'euros pratiquement, ou 19,7. Les journalistes adorent s'exciter sur le total bashing, l'opinion beaucoup beaucoup moins, et ils sont un peu tombés, enfin il y en a pas mal qui sont un peu tombés dans le panneau, et c'est vrai que notamment sur RMC ils faisaient réagir les gens, et les gens n'étaient pas du tout scandalisés par les profits de Total, et puis ils vont apprendre à aimer Total, parce que le litre là commence à tutoyer les 2 euros, ils ont capé à 1,99, vous allez voir les files d'attente chez Total.
C'est ce que disait Gaël, effectivement, il y a une majorité de Français qui a une bonne opinion de cette marque aujourd'hui.
Se souviennent de ça.
Bon, on va marquer une pause. Si vous voulez, on produit encore un mot de tout ça, pourquoi pas. Bah, notamment, je ne sais pas, peut-être sur les rachats d'actions. C'est vrai que, oui, c'est un peu la taxe du moment. Hein.
Voilà. Oui, mais c'est une erreur, parce que pour la plupart des investisseurs internationaux, le rachat d'actions est le moyen de ne pas réinvestir directement dans l'entreprise, de reprendre leur bille et de redistribuer leur capital. Donc, il faut, dès le moment où vous piégez des actions dans une entreprise, bah, il ne faut plus investir dans cette entreprise. Donc, vous asséchez le capital de l'entreprise. Il n'y a pas de meilleur moyen.
Mais on est très, très doué en France pour faire des trucs comme ça.
Oui, alors
oui, mais ça, du coup...
Bon, on marque une pause. On dira peut-être un mot, parce que moi, ça m'intéresse, les rachats d'actions. Et puis, on va ouvrir ensemble le baromètre Odoxa AJP Challenge BFM Business. Oui, oui. Pendant la pub, demandez-vous bien. Intuitivement, vous la mettez où, l'inflation ? Allez, à tout de suite.